Alors, cette table ronde, juste pour en situer le contexte, donc c'est à l'occasion de la recherche qu'on a conduite sur l'éclair Schœlcher à la Duchère, donc à Lyon, pas très loin d'ici, donc que des rencontres se sont faites. Et que donc avec l'équipe de la circonscription s'est monté une formation autour des mathématiques dont on va nous parler aujourd'hui. Voilà. Donc je remercie beaucoup Brigitte et Tiphaine. Donc Brigitte qui est conseillère pédagogique de circonscription et qui va aussi parler un peu du point de vue de l'IEN de la circonscription Monsieur Place. Et puis Tiphaine donc qui est maître supplémentaire
surnuméraire
pardon.
Pareil.
Voilà, et qui a un peu accompagné tout ce processus avec les collègues autour de l'objet dont ils vont vous parler. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce dispositif, il y a eu à la fois des processus d'accompagnement, des temps de formation collectifs, et c'est de voir aussi comment tout ça, ça s'est maillé, et comment, voilà, sur quel objet ça s'est posé, on va en parler. Et puis donc, il y a Sylvie, qui est aussi à la table ronde, parce que c'est un peu elle qui a lancé l'objet autour des mathématiques. Voilà, avec sa casquette de formatrice. Avant d'arriver au centre Alain Savary, Sylvie était formatrice au centre Michel Delay, donc qui est le CAREP, Centre de ressources pour l'éducation prioritaire de l'Académie de Lyon. Donc c'est un peu avec cette ancienne casquette-là que tu es intervenue, quoi. Voilà. Alors, je vais leur demander à chacune de se présenter. Et comme cette formation était vraiment centrée sur des objets en mathématiques, je vais leur demander, voilà, de leur point de vue, en se présentant, sur quoi il y a besoin d'avancer en mathématiques, quel est le problème pour faire progresser les élèves en mathématiques, comment ils perçoivent cette difficulté-là qu'on a à faire réussir les enfants en mathématiques. De votre point de vue, et il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux.
Tout de suite à chaud, là. Alors je me présente, je m'appelle Brigitte Benoît-Gonin, je suis conseillère pédagogique sur la circonscription d'Écully-Lyon-du-Cher, donc une circonscription qui a à la fois des communes dans l'ouest lyonnais et 5 écoles sur Lyon dans le quartier de la Duchère, et c'est un secteur éclair. Alors,
peut-être simplement dire, tu sais, que ce qu'avait dit Yves Place. En mathématiques, les anciens me disaient qu'ils travaillaient et qu'il y avait quand même des difficultés.
Oui, alors il me perturbe là parce que j'allais bien expliquer tout ça, mais c'était pas dans le bon sens, dans mon déroulé. Bon, alors, oui.
De ton point de vue, sur quoi il y a besoin de progresser dans les pratiques en mathématiques?
Sur les pratiques en mathématiques? Alors, à l'école primaire. Alors, moi, j'ai un point de vue de conseillère pédagogique, donc je ne vois pas les enseignants confirmés, je vois surtout les enseignants qui débutent. Donc sur les mathématiques, ce que je vois,
il y a tout. Il y a tout.
Oui, il y a tout. Alors en ce qui concerne la maternelle, ben on en a un tout petit peu parlé ce matin d'ailleurs l'exposé qu'on a eu ce matin là. Il y a des difficultés sur la notion du nombre. Sur les quantités, donc c'est vrai que ce matin j'ai entendu des choses et moi j'avais une autre réflexion dans ma tête par rapport à ce qu'elle disait sur la notion de quantité et la notion de nombre. Ensuite, en élémentaire, alors après, au niveau de la visite des débutants, on est dans ma circonscription, je vais plutôt voir les jeunes qui débutent en maternelle, et j'ai une collègue qui va plutôt au niveau du cycle 3. Mais en ce qui concerne le cycle 3, on a déjà mené des formations sur les nombres décimaux, sur les grands nombres. A priori, on avait fait ça ensemble d'ailleurs. A priori, on a des difficultés, enfin les enseignants ont des difficultés dans l'enseignement de ces thématiques. Ça convient ? Bon.
Donc, bonjour, je m'appelle Tiffany Young, je suis professeure des écoles depuis 15 ans et depuis 10 ans je travaille sur l'éclair de la Duchère. J'ai d'abord travaillé comme adjointe dans une école élémentaire et puis depuis octobre 2012 j'occupe le poste de professeur surnuméraire au collège. En gros, ce qui signifie, c'est que dans ce poste de professeur numéro 1, je ne sais pas si vous connaissez tous ce poste, j'interviens en fait sur les 5 groupes scolaires qui font partie de l'éclair, plus le collège. J'interviens en mathématiques et en français, donc de la toute petite section jusqu'en 3e. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que ça me donne une vue d'ensemble qui est assez intéressante. Alors, avant de... Donc comme j'ai participé à ce dispositif qu'on va vous expliquer, On m'a demandé quelle était ma position par rapport à la problématique des maths en classe. Donc évidemment, mon point de vue a changé depuis que j'ai quitté ma classe et depuis que j'occupe ce poste de professeur numéraire. Mais en gros, quand j'occupais mon poste de professeur des écoles, dans une classe avec, donc j'étais avec une classe de CE1, la grande difficulté pour nous, c'est la résolution de problèmes, évidemment. On sent bien que c'est en faisant de la résolution de problèmes qu'on est au cœur, qu'on est dans l'essence des mathématiques. Et j'ai envie de dire, j'étais dans la position, comme peut l'être aussi cette enseignante dont on a parlé ce matin, dont les deux chercheuses ont parlé, hein, c'est-à-dire cette femme qui n'identifie pas forcément les savoirs, qui où il y a du sens dans ce qu'elle fait, mais elle voit pas qu'il y a du sens. Enfin bon, du coup, on peut se dire, qu'est-ce qu'elle sait, cette femme, des usages experts de l'écrit? Qu'est-ce qu'elle sait de la littératie? Qu'est-ce qu'elle sait de la violence symbolique, parfois, de ses paroles? Et j'ai envie de dire que par rapport aux mathématiques, moi, ce que je vivais, c'était incapable de voir où était la difficulté. Oui, il y a de la difficulté, mais à quel niveau elle se trouve, cette difficulté? Donc, quand on est seul dans sa classe, on voit bien que c'est essentiel de faire de la résolution de problème, mais on ne sait pas où se situe le problème. Parce qu'on n'a pas un regard extérieur pour vous aider à prendre du recul et à changer ses pratiques.
Et du coup, maintenant qu'on est en surnuméraire.
Voilà, alors du coup, ensuite, en étant professeur surnuméraire, en ayant participé à ce dispositif dont on va vous parler, évidemment, j'ai changé, puisque j'étais moi-même amenée à être dans de la formation et former les enseignants et intervenir pour développer ce dispositif autour de la résolution de problèmes. Évidemment, j'ai pris, je me suis formée, donc du coup, j'ai changé mon regard sur cette pratique.
Merci. Alors, Sylvie.
Oui. Donc, moi, je ne vais pas me représenter. Hein. Simplement, oui, je ne sais pas si tout le monde s'en souvenait, mais je suis enseignante en mathématiques au départ. Et j'ai enseigné en éducation prioritaire pendant 18 ans. Voilà. Et puis, j'ai eu l'occasion, quand j'étais au centre Michel Delay, donc le CAREP, hein, de travailler de la maternelle, pareil, hein, toute petite section, jusqu'au lycée professionnel. Et puis, quand j'étais en éducation prioritaire, dans le cadre du réseau, j'ai pas mal travaillé avec les écoles dans le premier degré aussi. Et c'est comme ça un petit peu que je me suis construit ma connaissance du premier degré. Parce que quand on est enseignant en second degré, très souvent, on a une méconnaissance totale de la culture, entre guillemets, premier degré. Voilà. Et mais pour autant, quand Stéphane pose la question finalement de quels sont un peu les problèmes que rencontrent les enseignants et les élèves par rapport aux mathématiques, ce que je vais dire en le regardant, je crois que c'est pas spécifique au premier degré en fait. Non. Je pense qu'on peut dire la même chose dans le second degré. Mmh. Alors Tiffany, tu peux le dire aussi. Et puis peut-être aussi. En même temps que je le dis, j'y pense. Je ferai jamais ça pour si je devais parler des élèves. Et pourtant là, je vais le faire en parlant des enseignants. Donc mon idée, c'est absolument pas d'être accusateur ou de faire culpabiliser. Mais c'est vrai que je vais beaucoup présenter les choses en termes de manque. Alors que je présenterai jamais les choses en termes de manque par rapport aux élèves. Voilà, donc je suis en train de me dire, il va falloir que je réanalyse mon discours là. Avant de vous le dire, je suis en train de me dire, il va falloir que je le revisite à un moment donné, ce discours-là, parce que là, je l'ai préparé en termes de manque et en fait, ça me pose problème d'un coup, là. Voilà. Alors, je vous le livre.
Oui, mais tu vois, par rapport à ce qu'elle disait ce matin, elle disait que c'était une enseignante remarquable, ouais, fine, bienveillante. N'empêche que malgré tout ça et toute sa bonne volonté, on voit ce qui ne va pas. Donc c'est bien, oui, ça qu'il faut regarder pour, oui, arriver. Donc, excusez-nous, mais autorisons-nous à voir ce qui ne va pas et à pas, ouais, vouloir se flageller, etc., ni s'accabler, ni se culpabiliser, quoi que ce, mmh, soit. Mais on est au cœur du problème quand on se dit qu'il faut voir ce qui ne va pas, quoi. C'est ça qui va nous permettre d'avancer.
Voilà. Donc j'y vais. Enfin, c'est pas exhaustif, hein, non plus, mmh, ce que je vais dire, mais bon. Alors moi, la première chose que je veux dire, c'est que une première chose, c'est qu'il y a pour moi une espèce de représentation, de conception un peu sociale et sociétale des mathématiques comme une discipline spécifique dans laquelle les savoirs sont cumulatifs.
c'est-à-dire une forme de behaviorisme, là, une espèce de truc où si finalement on n'a pas appris les tables d'addition, l'algorithme de l'addition, on va pas pouvoir résoudre des problèmes qui relèvent de l'addition. Donc il y a cette espèce de représentation qui est très vraie dans la société, mais qui reste aussi très vraie dans l'univers enseignant. Et je pense que ça, c'est un premier problème qui fait un peu obstacle. En géométrie, c'est aussi quelque chose de très vrai, c'est-à-dire qu'on a l'impression que, avant de pouvoir aborder les concepts de géométrie, ben, il va d'abord falloir maîtriser, connaître les outils, avoir un minimum de motricité fine pour pouvoir se servir de ces outils, savoir faire des figures précises avant de pouvoir rentrer dans le raisonnement déductif, enfin dans le raisonnement géométrique et d'accéder aux concepts. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui fait obstacle, hein, dans la classe. Après, il y a aussi, de mon point de vue, une autre chose, c'est peut-être l'idée qu'un concept mathématique, c'est quelque chose de statique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a acquis le concept de nombre. Voilà. Or, de mon point de vue, et enfin, c'est pas que de mon point de vue, mais je pense que c'est quelque chose qui est complètement faux, c'est-à-dire que un concept, on le construit tout au long de sa vie, et en même temps, c'est la relation qu'on entretient avec le concept qui va aussi faire évoluer le concept. C'est-à-dire que les concepts eux-mêmes sont sans arrêt réinterrogés par les mathématiciens, par les philosophes, enfin voilà. Donc, un concept, c'est pas quelque chose qui est stable, qui est un objet. Un objet idéal à la Platon, quoi. C'est un concept, de mon point de vue, c'est même pas ça, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on puisse interroger et sur lequel on va évoluer tout au long de sa vie. Je veux dire, le nombre tel qu'on le conçoit à 4 ans, tel qu'on le conçoit à 20 ans, tel qu'on le conçoit à 80 ans, c'est pas la même chose. Voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est pas forcément très intégré dans l'univers enseignant. Après, alors ça, c'est peut-être un peu plus spécifique dans le premier degré, mais encore que je crois pas, parce que quand on regarde les épreuves du bac ou les épreuves du brevet, c'est la même chose. Je pense qu'il y a une vraie survalorisation du savoir procédural. Alors dans le premier degré, vraisemblablement parce que ça rassure les enseignants, on peut se dire que peut-être dans le second degré, c'est plus pour faire réussir nos élèves aux examens, je sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment une survalorisation de ce savoir procédural, qui pose problème aussi. Il y a aussi, j'ai oublié de le dire, hein, mais une très forte pression autour des mathématiques. Cette pression, elle est sociale et elle est familiale et elle est scolaire et elle est liée au fait que les mathématiques, c'est une matière par laquelle on sélectionne. Là-dessus, les élèves, je pense, dès les petites classes, sont sous pression, hein, par rapport aux mathématiques. Ensuite, il y a aussi que très souvent, ça c'est peut-être plus dans le premier degré, on a une vision assez stéréotypée des mathématiques, c'est-à-dire qu'un problème égale une solution et donc un chemin pour y accéder, alors que un même problème peut être abordé de tas de façons différentes, qu'il peut y avoir plusieurs solutions également, enfin voilà. Il y a aussi tout ça qui peut-être parfois est un peu à déconstruire chez les enseignants pour qu'ils puissent le déconstruire, enfin en tout cas le construire autrement pour les élèves. Une autre chose, il me semble qu'il y a un leurre et que là, ce leurre, il est un peu entretenu aussi par les programmes, par le discours institutionnel. C'est cette idée que finalement, les mathématiques, dire qu'il faut donner du sens aux mathématiques, ça signifie qu'il faut faire des mathématiques utilitaires, c'est-à-dire proposer des problèmes de la réalité aux élèves. Or, soit, il y a plusieurs possibilités, c'est soit on habille un problème pour que ce soit au départ un problème mathématique et puis on l'habille de manière complètement artificielle, soit on propose effectivement des problèmes issus de la vie réelle, mais à ce moment-là, alors j'ai un exemple en tête que je vais vous proposer, à ce moment-là, un élève qui a une expertise dans le domaine en question va être carrément mis en difficulté par le problème de maths. Je pense par exemple un problème où on a une pièce et puis on a un peintre qui doit peindre la pièce. Il y a des portes, il y a des fenêtres, donc il doit finalement calculer la surface, il doit mettre deux couches de peinture et puis il doit calculer combien de pots il faut acheter. Je veux dire, le gamin dont le papa est peintre en bâtiment, ça va vraiment le mettre en difficulté. Parce que ce gamin-là, il sait très bien, un, que la quantité de peinture qu'on met, elle va dépendre du matériau. Elle va dépendre de... Voilà. Qu'on va pas mettre la même quantité de peinture sur la première couche et sur la deuxième couche. Il sait qu'on mettra pas la même peinture sur les boiseries. Il sait que s'il y a un pot de peinture en plus, de toute façon, maintenant, ils le reprennent dans les magasins. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de choses comme ça qui vont faire qu'en fait, ce gamin-là, il va pas réussir à le mathématiser, ce problème-là. Et on va le mettre en difficulté. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un leurre aussi par rapport à ça. À certains moments, on peut très bien faire des mathématiques en étant dans les mathématiques pures, enrôler les gamins et les passionner par rapport à ce qui se passe. Hein. Je pense que ça ne pose aucun problème. Voilà. Bon, mais ça c'est une conviction très forte. Mais quand même, cette idée du leurre, je pense qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. Je continue ou faut que je m'arrête ? Il m'en reste 4. Ouais. Alors, juste un exemple, par exemple, aussi pareil pour donner du sens aux mathématiques. Juste un petit problème que moi je pose à mes élèves en 6e, 5e, 4e, 3e. Hein. Peut-on dire d'une vache de 600 kilos que c'est une belle bête ? Voilà. Et c'est un problème de mathématiques. Alors, je leur dis, on est en mathématiques. Voilà. Et donc on y passe 2 heures, 3 heures hein, des fois hein, là-dessus. Bah, c'est-à-dire que on va réfléchir ensemble à qu'est-ce que c'est qu'une belle bête. Il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Il va falloir qu'on réfléchisse à finalement dans quel champ on va se situer. On va être dans le champ des statistiques, mais on va avoir plein de choix à faire avant de rentrer dans les mathématiques. Et donc finalement, on va essayer de circonscrire tout ça. À quel moment on est dans le domaine du choix et où on va se mettre d'accord sur quelque chose, et à quel moment on va rentrer dans le traitement mathématique par rapport à des choix qu'on a fait. Voilà. Donc ça, c'est pour donner un petit peu... Enfin, voilà, c'était juste pour vous montrer que... comment on peut faire aussi, voilà, pour donner du sens aux mathématiques. C'était juste... Voilà. Une autre chose, je pense que... Et c'est vrai dans le premier degré, mais aussi dans le second degré, il y a une véritable réticence à proposer des problèmes ambitieux et complexes aux élèves, parce que c'est très long à traiter. Enfin... Justement, c'est ce qu'on va démontrer. Enfin, c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer c'est aujourd'hui. C'est parce que on pense que c'est très long à traiter avec les élèves. Et puis enfin, je termine sur deux choses qui me semblent extrêmement importantes. Il y a une véritable méconnaissance de l'histoire des mathématiques au niveau des enseignants, qui ne permet pas une approche épistémologique des difficultés que les élèves rencontrent en mathématiques. Je prends par exemple l'exemple des nombres relatifs. Les nombres relatifs à la fin du 16e, du 17e siècle, début 18e, la communauté scientifique s'est écharpée. On les a appelés les nombres menteurs, on leur a donné tout un tas de noms, avec ceux qui pensaient que non, ces nombres-là ne pouvaient pas exister, ceux qui disaient pas si on en a besoin, parce que finalement, si on veut trouver, décréter qu'il y a des nombres, qu'il y a des équations qui ont des solutions, ben en fait on en a besoin, donc on va les inventer, on va les créer. Voilà. Il y a là un véritable obstacle, et que nos élèves mettent du temps pour comprendre ce que c'est qu'un nombre relatif, pour comprendre les opérations, il faut avoir un minimum de connaissances. Et très souvent, on essaye de leur faire croire qu'il y a une continuité au niveau des nombres relatifs, une continuité par rapport aux nombres, aux entiers naturels, aux décimaux, etc. En réalité, effectivement, la communauté scientifique, à un moment donné, puisqu'on avait des nombres, il fallait créer des opérations sur ces nombres, et elle a essayé d'imaginer, de construire ces opérations pour qu'elles soient vaguement dans le prolongement du reste. Mais par exemple, la multiplication de deux relatifs n'a aucun sens. C'est faux de dire on monte les escaliers, on les descend. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire quand on fait moins 3 fois moins 5 ? Ça n'a aucun sens quand on parle de dette, de choses comme ça. Ça n'a aucun sens. On est réellement au niveau des mathématiques dans un endroit où il y a une rupture. Et ça me semble extrêmement important que les enseignants le sachent, parce que sinon on fait croire aux élèves qu'il y a une continuité et que cette continuité, elle leur échappe. En fait, il n'y en a pas de continuité. Il y a une rupture, là. Et il y a une décision de la communauté scientifique d'inventer, de créer quelque chose. Voilà. Donc, c'est des choses qui me semblent extrêmement importantes. Voilà, puis j'arrête là. Après, je voulais donner l'exemple aussi des obstacles didactiques avec l'entrée dans l'algèbre, mais bon, c'est, ça fait tirer.
Ça ira.
Oui, j'arrête.
Merci, Sylvie. Alors, Brigitte, est-ce que tu pourrais nous raconter comment c'est mis en place ce projet de formation et comment il s'est, voilà, sur la durée, comment il s'est mis en place?
D'accord. Alors, l'expérimentation donc, a eu lieu sur la Duchère, donc, qui est un secteur éclair. Yves Place, qui est l'IEN de la circonscription, n'a pas pu donc être disponible cet après-midi pour venir témoigner de l'expérimentation. Donc j'ai la lourde tâche de le représenter et modestement de vous présenter l'historique donc, de cette expérimentation. Alors, Tiffaine et Sylvie viendront compléter parce que, en théorie, je n'ai pas participé au comité exécutif puisque c'était mon collègue qui est parti à la retraite. Qui était au comité exécutif. Donc je vais vraiment relater les propos de mon inspecteur.
Juste, comité exécutif, pour ceux qui ne sont pas en ZEP, c'est donc l'instance de pilotage du réseau d'éducation prioritaire.
Voilà, je l'expliquais là de suite. Je précisais donc le comité exécutif est une instance où sont réunis donc l'inspecteur de la circonscription, le principal du collège, du secteur, les professeurs surnuméraires, donc dont Tiffaine, les directeurs des écoles du secteur et la secrétaire du comité exécutif, qui est un professeur des écoles, qui est à mi-temps, et qui est à mi-temps donc en charge du secrétariat du comité exécutif. Alors, tout a commencé par le repérage des difficultés scolaires des élèves. Ce repérage s'est fait à partir des évaluations nationales en mathématiques. Puis ensuite, il y a eu l'analyse des besoins de formation des enseignants. Alors, cette analyse s'est faite en rapport avec ce qu'ils disaient pendant les comités exécutifs. Donc, on va remonter au niveau du temps. Pendant l'année 2012-2013, le constat des besoins de formation des enseignants a donc été ressenti au cours du comité exécutif, pendant lequel était prévue l'analyse des résultats des évaluations nationales en mathématiques. C'est bien ça? Alors, au niveau des résultats des évaluations en mathématiques, il est ressorti que les résultats étaient défaillants en ce qui concernait la résolution de problèmes. Mais l'IEN, pendant les inspections, entend malgré tout les enseignants dire « On fait des choses en maths, mais elles n'aboutissent pas. On n'obtient pas les résultats escomptés. » Donc, c'est le premier bilan que fait donc l'inspecteur. Deuxièmement, au cours de ces inspections, il observe les enseignants ne sont pas réellement investis par la résolution de problèmes. Il propose une seule façon de résoudre le problème. C'est ce que disait Sylvie. Le traitement des situations problèmes est systématiquement collé aux apprentissages. Les élèves ne sont donc pas en situation de réfléchir sur les savoirs qu'il faut mobiliser, car ces savoirs sont enseignés auparavant dans la séance de maths. Alors je prends un exemple. Suite à une séance d'apprentissage qui concerne l'addition, l'enseignant va proposer une situation problème qui fait intervenir l'addition. Donc dans ce cas, les élèves ne réfléchissent pas, ils appliquent ce qu'ils viennent d'apprendre dans la séance qui vient de précéder. Ils utilisent donc l'addition, donc il n'y a pas de recherche, on va dire. La réponse est donc induite par la séance d'apprentissage qui a donc lieu précédemment. On peut dire dans ce cas que la situation problème proposée n'est pas vraiment une situation problème. La situation problème est collée à une situation d'apprentissage. Alors, au cours de cette même période, l'IFE a donc lancé une recherche sur l'éclair de la Duchère. Cette recherche menée par Sylvie Martin D'Ametto porte sur culture écrite et prévention du décrochage scolaire, ce qu'elle vous a expliqué tout à l'heure. Donc, par le biais de rencontres et d'échanges, Sylvie, professeure de mathématiques, est invitée donc à un comité exécutif. Elle présente à l'ensemble du comité exécutif le dispositif mise en train, plus communément appelé MET. Voilà. Donc elle vous en expliquera après la démarche. Alors suite à son explication, l'ensemble du comité exécutif adhère à cette démarche. Sylvie propose donc d'intervenir dans les classes avec le professeur surnuméraire, Tiffaine. C'est donc le départ d'une formation dont les modalités s'organisent au cours du comité exécutif en présence de l'IEN et enfin de toutes les instances. Alors la première mobilisation est donc celle des directeurs puisqu'ils assistent au comité exécutif. Ils auront, eux, pour mission de transmettre les informations entendues au comité exécutif à l'ensemble de leur équipe pédagogique. On peut dire que la formation des enseignants débute par l'intervention de Sylvie dans une classe. Il me semble que c'est ça. Je ne sais plus le niveau de classe, par contre.
Si. Oui, si. Toutes les deux.
Oui, en CM2.
En CM2, oui, dans une classe de CM2.
Donc, Sylvie propose aux élèves une situation problème, une ou plusieurs, je ne sais
plus. Une.
Une. Elle anime la séance avec les élèves. L'enseignant de la classe et le professeur surnuméraire assistent à cette séance. Ils sont assis au fond de la classe. L'enseignant observe. Il constate l'adhésion des élèves. Ça marche.
Donc, alors, juste, je t'arrête. Oui. C'est pas tout à fait ça, parce que on a préparé la séance ensemble avec Tiffaine, et donc on a co-animé, et cette séance était filmée de façon à ce qu'on puisse revenir dessus et retravailler dessus. Hein? Après, on expliquera aussi pourquoi. Hein? C'était pas l'idée du modèle.
Donc, ça marche.
Oui,
ça marche. Donc, on estime que ce résultat satisfait l'enseignant. Et l'enseignant de la classe, hein, je veux dire. L'enseignant surnuméraire donc observe Sylvie et ensuite, parce que c'est elle qui se chargera ensuite de passer dans les classes et d'animer les séances. Alors, à la fin de l'année scolaire, donc en juin 2013, un bilan de cette action, des séances qui sont donc présentées dans les classes avec Sylvie et Tiffaine en fond de classe, le bilan donc est présenté au comité exécutif et le bilan est positif. Donc, l'IEN décide de proposer des temps de formation sur la mise en train en mathématiques à l'ensemble des enseignants de cycle 2, de cycle 3 du secteur de la Duchère. Alors, on passe à l'année 2013-2014. L'enseignante surnuméraire Tiffaine fait des interventions tout au long de l'année dans toutes les classes de cycle 2, de cycle 3 du secteur éclair. Je crois que tu as fait combien d'interventions ?
Enfin, le nombre d'interventions, je ne sais plus, mais j'ai fait 30 classes à raison de 6 à 8 séances par classe. Voilà, du CP jusqu'au CM2 et puis des CLIS aussi, des classes CLIS.
Donc, elle montre comment on s'y prend. Ça rassure l'enseignant qui est dans la classe, qui est avec elle, qui est en fond de classe ou qui participe selon les cas. Alors, en parallèle à la circonscription, la circonscription propose deux temps d'animation pédagogique à l'ensemble des enseignants de cycle 2 et de cycle 3 du secteur. Ces temps d'animation étant de 2 fois 3 heures. Alors, la première animation, donc ces animations sont portées par Sylvie et par Tiffaine. La première, alors vous me redites hein, si je ne dis pas exactement ce qui s'y est passé, la première portait sur le dispositif en général avec des apports théoriques. Et la deuxième animation, plus tard, proposer quelques situations problèmes afin de comprendre l'enjeu de chacune. Donc, ces animations sont menées donc conjointement Sylvie et Tiffaine, et elles vous expliqueront, je pense, après les contenus. Ben j'ai terminé sur l'historique. On arrive au bout de cette historique. Donc, en fait, pour dire, cette formation s'est faite donc sur 2 ans. Une première année, il y a plus ou moins eu, on va dire, une présentation par Sylvie du dispositif avec la démarche que Tiffaine s'est appropriée et qui après a été, disons, mis en place, après sous forme aussi d'animation pédagogique pour aider les enseignants dans la pratique de cette nouvelle démarche. Voilà ce que je peux dire de l'historique du dispositif.
Merci. Est-ce que Tiffaine et Sylvie, vous voudriez compléter de votre point de vue sur cette mise en place progressive
Je pense surtout qu'il faut que tu expliques, Sylvie, ce que c'est que les maîtres, pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle.
Oui. Donc, la mise en train, train, en fait, quand on l'a inventé avec des collègues, ça signifie travail de recherche en autonomie avec prise d'initiative. Ça, c'était pensé. voilà. Bon, plus simplement, on peut aussi appeler ça gratte-neurone. Hein. Enfin, bon, voilà. Travail de recherche en autonomie avec prise d'initiative. On a 1 ou 2 articles papier qu'on a fait en 70 exemplaires qu'on pourra vous laisser là-dessus. Hein. L'idée, c'est de se dire que finalement, en mathématiques, au départ, hein, nous, l'idée, c'était de se dire, on était un groupe d'enseignantes de maths, et on s'est dit, nous, ce qu'on aime en maths, c'est chercher des problèmes, et puis, en fait, on le fait très rarement dans nos classes, voilà. Et puis, à partir de là, on s'est documenté un petit peu, et on a découvert le travail de Jean Julot, Jean Julot, qui est un psychocognitiviste. Alors, je ne vais pas vous développer la théorie de Jean Julot. En gros, ce que dit Jean Julot, c'est qu'on ne sait pas enseigner la résolution de problèmes. Alors, il nie pas qu'il y a une dimension heuristique dans la recherche de problèmes, mais il dit qu'on ne sait absolument pas quels sont les fonctionnements cognitifs qui sont propres à chaque individu quand ils sont mis en présence d'un problème à résoudre. Donc, à partir de là, lui, ce qu'il préconise, je taille dans la masse par rapport à ce qu'il dit, mais à partir de là, ce qu'il préconise, c'est qu'il dit qu'il faut être confronté très souvent à des problèmes de mathématiques, de façon à ce que chacun puisse faire ses liens. Alors, moi, ça me renvoie à la métaphore du grainetier, et cette métaphore, visiblement, elle parle bien, puisque 2 ans après, quand j'ai revu Yves Place il y a 15 jours, l'inspecteur, il m'a dit « Ah, le grainetier, alors je m'en sers tout le temps ». Donc, le grainetier, c'est un placard avec plein de petits tiroirs, vous savez, où on mettait les graines dedans. Et donc, moi, ma métaphore, je la représente comme ça, c'est l'idée que c'est pas forcément résoudre des problèmes, c'est se confronter à des problèmes. C'est pas grave s'ils les résolvent pas, s'ils vont pas forcément au bout. Ils les rencontrent. Et donc, ils remplissent leurs petits tiroirs. Et après, comment ils font pour faire les liens entre les différents tiroirs? Ça, c'est un mystère, c'est le mystère de chacun, finalement. Voilà. Mais l'idée, c'est qu'il faut en avoir de ces tiroirs-là. Et il faut qu'ils soient pleins. Voilà. Donc, se confronter souvent à des problèmes. Donc, après, bien évidemment, si on veut se confronter souvent à des problèmes, faut qu'on trouve le moyen de s'y confronter rapidement, parce qu'on ne peut pas y passer un temps infini. Et à partir de là, on s'est dit, comment on fait? Donc, c'est vraiment le principe de la mise en train, c'est pour entrer en classe. Alors, dans le second degré, on sait que l'entrée en classe, c'est un vrai problème, un peu moins dans le premier degré. Donc, on évacue tous les rituels socialisants et on passe sur un rituel de travail, la mise en train. C'est-à-dire que quand les gamins arrivent, systématiquement, il y a un problème de maths qui leur est proposé et ils rentrent en classe et ils font comme ils veulent. C'est-à-dire qu'il y en a, avant de se déshabiller, ils lisent le problème et puis ils réfléchissent. Il y en a, ils écrivent, voilà. L'idée, c'était ça pour le second degré. Dans le premier degré, c'est peut-être un petit peu différent. Mais voilà, c'est un sas d'entrée en classe et c'est tous les jours. Ensuite, qu'est-ce qui me semble vraiment important à dire? L'idée, c'est aussi que on n'apprend pas tous la même chose au même moment, justement quand le prof le décrète. Donc, pour approcher certaines notions, la mise en train, c'est l'idée de rentrer dans une notion de plein de façons différentes. Il existe des problèmes qui sont les mêmes, avec un énoncé géométrique, avec un énoncé, avec un habillage, avec un énoncé plus algébrique. Enfin voilà, il y a différentes façons d'aborder surtout les notions qui sont difficiles. Avec l'idée aussi que quand on propose plusieurs fois des problèmes qui portent sur la même notion, quand l'élève se confronte à cette notion, il n'est pas forcément au même stade que les autres. C'est-à-dire que ce problème-là, certains vont le vivre comme un problème encore de découverte, d'autres comme un problème de structuration, d'autres comme un problème d'automatisation, et puis d'autres vont être vraiment complètement déjà dans une démarche experte. L'idée de la mise en train, c'est d'autoriser ce temps-là, c'est-à-dire que on propose ces petits problèmes dans un temps qui est long, de façon à ce que chacun puisse arriver au moment de la démarche experte à son rythme. On l'impose le plus tard possible, c'est-à-dire on institutionnalise la démarche experte le plus tard possible au niveau de la mise en train. Et peut-être juste 2 petites choses encore à dire. La mise en train, surtout, ça n'est jamais une évaluation. Jamais. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça se passe dans un cadre, dans un contexte didactique hyper sécurisant. Hein. Énormément de choses explicitées. Et puis, qu'est-ce que... c'est tout. Après, on verra.
Juste pour dire, quand Sylvie fait la formation aux enseignants et qu'elle leur propose un petit problème sur un temps très court, la plupart des enseignants eux-mêmes, qui ne sont pas forcément des enseignants de mathématiques ou qui ont fait des études de mathématiques, sont dans une situation de grande angoisse.
Oui. Donc, d'où l'importance du cadre sécurisant, de pas d'évaluation, d'un contrat didactique extrêmement clair avec les gamins, l'idée de pas de contraintes aussi, chacun rentre à son rythme dedans, l'idée que si un jour il y a un gamin, ben il a pas envie de faire la mise en train, ben en définitive c'est pas non plus un drame, je veux dire, des gamins qui décrochent du cours pendant un quart d'heure, pendant 20 minutes et des fois même pendant tout le cours, on en a tous, hein. Donc si à un moment donné aujourd'hui la mise en train il l'a pas, ben tant pis. Par contre, il y a un véritable enjeu très fort, c'est sur le courant d'année, c'est réussir à enrôler tout le monde dans la mise en train. Voilà, ça c'est un enjeu très fort. Et puis l'idée c'est que sur cette mise en train là, on fait son deuil de la rédaction. C'est-à-dire, c'est pas que il y a un langage, enfin il y a une sémantique spécifique en mathématiques, etc. Il y a un temps pour tout. Voilà. La mise en train, c'est pas le moment où on va travailler sur comment est-ce qu'on rédige un problème de mathématiques. C'est un moment par contre où on va pouvoir échanger sur différentes stratégies. Puis peut-être même il y a des jours où on n'aura pas le temps de traiter de certaines stratégies. Ben tant pis, on les traitera une autre fois. Voilà. Oui.
Les élèves, ils sont interrogés sur la façon dont ils ont cherché à résoudre le problème.
Oui, bien sûr. Oui. Ils sont sans arrêt invités à la métacognition. C'est pour ça qu'il y a peu de traces écrites. Les traces écrites, c'est vraiment pour les inscrire dans la mémoire collective. Et ces traces écrites, bon, après, chaque enseignant qui adhère fait comme il veut, mais ça peut donner lieu soit à un petit cahier de mise en train où on note une phrase, soit à une affiche qui s'inscrit dans la mémoire collective, dans la mémoire partagée. Mais il y a beaucoup de métacognition. Par contre, l'institutionnalisation finale où on va poser une démarche experte, on la retarde au maximum.
Juste, alors peut-être pour compléter, Tiffaine, toi, dans l'historique, quand t'as accompagné, ça a été simple de...
Alors, quand on écoute Sylvie, on passerait l'après-midi à l'écouter parce que c'est passionnant. On voit bien qu'elle a la maîtrise de la didactique des maths, les savoirs mathématiques, plus en plus les savoirs pédagogiques. Donc, moi qui ne suis pas dans ce cas-là, puisque je ne suis pas mathématicienne, la difficulté, c'est qu'il a fallu que j'absorbe ce que Sylvie a présenté dans les différents comités exécutifs. Je l'ai observé faire dans une classe, on a fait une vidéo, on a travaillé ensemble, et ensuite, il a fallu que moi, de mon côté, je redéploie ce dispositif dans les classes. Donc, évidemment, je ne suis pas à la hauteur de ce que Sylvie présente, mais ce n'est pas un problème. C'est pas un problème parce que justement c'est et je pense que là on touche au cœur de la problématique de la formation, c'est que finalement en déployant ce dispositif pour former les enseignants, je me suis formée moi aussi. Et donc on peut dire que finalement c'est un processus de formation. Donc moi ensuite ce que j'ai fait dans les classes, c'est j'ai proposé aux enseignants, donc je leur ai re-expliqué ce dispositif, ce que n'était pas au comité exécutif local, et que les animations pédagogiques ont eu lieu après le déploiement de ce dispositif dans les classes. Donc j'ai fait le tour avec mon bâton de pèlerin, j'étais dans toutes les écoles, j'ai expliqué ce que c'est ce dispositif, mais bon ça se fait toujours très rapidement sur un coin de table, entre midi et deux, entre la poire et le fromage, on explique ce qu'on va faire, on rassure les enseignants en disant bah, écoutez voilà je te propose ça, en gros le dispositif c'est ça, mais... On n'a pas le temps d'expliquer tout ce que Sylvie vient vous expliquer, et encore, elle l'a fait en raccourci. Donc, mais les enseignants sont toujours OK parce que, pour eux, c'est une vraie pierre d'achoppement, la résolution de problèmes. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'adhésion de tous les enseignants. Et en plus de ça, je leur proposais de faire la classe. C'est-à-dire que là, et du coup, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont, eux, en fond de classe, ou pas. Mais en tout cas, c'est moi qui arrive avec le dispositif et qui fait... parce que dans ce métier, on a rarement l'occasion de voir d'autres enseignants faire. Donc ça, je pense que c'est une donnée qui est vraiment, vraiment importante dans ce dispositif, c'est de pouvoir regarder quelqu'un en train de faire. On se voit jamais en train de faire. Et surtout... Quand on disait, la remarque que vous faisiez en disant qu'on était, je sais plus exactement comment vous avez formulé votre question, quand on va poser le problème, c'est-à-dire que les enfants vont partir dans la recherche de la résolution du problème, ce qui est extrêmement difficile pour l'enseignant, c'est qu'est-ce que je fais de toutes les réponses des enfants. C'est-à-dire si l'objectif c'est de prendre en compte la diversité de chaque enfant avec sa difficulté. Et si en même temps l'idée c'est de s'appuyer sur justement l'hétérogénéité du groupe, comment est-ce que je vais faire? Et ça c'est en cycle jeune, et les enseignants quand je les recroise, ils m'en parlent tout le temps en me disant je sais pas comment faire quand j'ai toutes ces réponses d'enfants, et qu'à partir de ces réponses il va falloir que je construise une réponse collective. Et le geste professionnel, c'est là qu'il est difficile, au-delà du fait aussi qu'il peut y avoir des problèmes de savoir en mathématiques,
Sauf que là, comme j'interviens aussi en collège, je m'aperçois que les professeurs de maths ont l'expertise disciplinaire, mais ils ont aussi d'autres difficultés qui sont des difficultés de connaissance en didactique des mathématiques et puis de pédagogie surtout. Hein. C'est vrai que je pense que dans le premier degré, on est un peu en avance en pédagogie par rapport au secondaire.
Et puis, alors, peut-être juste pour revenir aussi sur cette idée de... alors c'est sécurisant d'avoir un enseignant qui vient dans la classe et puis qui montre, mais l'idée c'est pas montrer pour faire modèle. Je pense que ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Montrer parce que c'est rassurant, ça c'est une première chose. C'est montrer aussi pour pouvoir derrière débriefer sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est joué, sur la façon dont certains passages à risque, hein, notamment quand on récupère toutes les réponses. Moi j'appelle ça des passages à risque. Comment est-ce qu'ils ont été gérés? Et puis aussi l'idée, ce qui a été dit à plusieurs fois là dans cette formation, que il y a un certain nombre de savoirs professionnels qui sont intégrés et qu'en fait on sait pas les verbaliser, on sait pas forcément mettre des mots dessus, et en même temps on les repère mais de manière, enfin voilà, ils sont implicites, ils sont inconscients, ils sont quand même là, et je pense qu'ils se transmettent aussi dans ces moments là donc vraiment par rapport à ça, quand on a fait de la co-intervention, que ce soit en animation pédagogique ou que ce soit dans la classe, c'était pas du tout avec l'idée d'être modélisant, enfin d'être modèle quoi, c'était vraiment tout ça qu'on avait derrière en tête.
Oui, l'idée de croiser des regards et des pratiques. Mmh. Moi, je pense qu'un des points positifs de ce dispositif, c'est que, bon, en tout cas, je parle pour le premier degré, on a 18 heures d'animation pédagogique à faire par an. Donc, on nous propose un panel d'animation. Donc, une année, on va voir la numération cycle 3, enfin, ensuite les nombres décimaux, etc. Donc, on n'a pas le choix dans ces animations pédagogiques. Mais surtout, souvent, on est très content d'avoir suivi cette animation pédagogique, elle est très intéressante, mais souvent, on en sort en disant, bon, et maintenant, qu'est-ce que je fais dans ma classe? Or là, avec ce dispositif, on est directement, ce dont on a parlé, ce qu'on a présenté, les théories qu'on a présentées, on les montre in situ dans la classe. Donc du coup, et avec l'enseignant, avec les élèves, donc du coup, ça permet d'être dans une formation de proximité, c'est-à-dire que l'enseignant va pouvoir tout de suite, soit à chaud, soit à la séance suivante, pouvoir rediscuter de ce qu'il a vu, réinterroger ce qu'il a compris des théories, et donc pouvoir avancer un petit peu dans son processus de formation.
Alors, je vais rebondir sur ce que dit Tiffaine, parce qu'effectivement, la situation de formation-action, c'est comme ça qu'appelait l'inspecteur ce qui s'est passé sur la Duchère, est intéressante parce qu'elle est professeure surnuméraire et qu'elle peut être... Elle peut être dans les classes et qu'on a eu l'opportunité d'avoir Sylvie à la Duchère. Donc pour lui, c'était un point en plus, puisque Tiffaine, étant maître surnuméraire, a été choisie au départ parce qu'elle a le CAFIPEMF et qu'elle elle a les possibilités de faire la formation. Donc c'est un plus pour la Duchère, puisque c'est un secteur éclair. Donc cette possibilité de faire cette formation action a pu se faire parce qu'on était malgré tout avec des possibilités humaines, on va dire, en plus. Voilà.
Donc pour toi, pour l'IEN, tu appelles ça formation action.
Oui.
C'est-à-dire que, est-ce que tu penses que le fait d'avoir pensé ce dispositif avec cet accompagnement de Tiffaine articulé après aux animations pédagogiques, c'est ce qui permet l'appropriation des contenus de formation?
Alors, l'inspecteur trouvait cette situation intéressante parce qu'en fait, l'enseignant voyait, comme a dit Tiffaine, l'enseignant voyait devant lui se dérouler une situation, une séance. Il voyait que les élèves adhéraient, il voyait que ça marchait. Donc, quelque part, il était rassuré et il se disait, bon, alors moi, après, il faut effectivement que je m'approprie ça. Mais on lui a donné la possibilité de le faire dans le cadre des animations pédagogiques où il a pu effectivement... on va dire entendre un contenu théorique et entendre aussi des principes intéressants. Donc après, il a pu s'approprier éventuellement des situations problèmes qu'il a pu ensuite échanger au cours de la deuxième animation pédagogique. Il y a eu un suivi qui a été vraiment intéressant pour les enseignants.
Enfin, tous les jours dans le second degré, c'est à chaque heure de cours. Donc en gros, il y a 4 heures de cours en maths.
Ils n'arrivent à faire le programme
Eh ben alors. Alors, on dévie un petit peu là, mais par rapport à ça, oui, on est un certain nombre d'enseignants du second degré à le tester, hein, là, maintenant, depuis un certain nombre d'années. Et en fait, là où on ne terminait jamais le programme, avec la mise en train, on finit le programme. C'est là la différence. Et on le finit avec les élèves. Parce que quelquefois, on peut faire son programme, comme on dit en tant que prof. Hein, j'ai fait mon programme, voilà. Après, les élèves, voilà. Hein, on sait que ça existe. Eh ben oui, justement, et c'est ça qui, enfin nous, c'est ça qui a transformé vraiment notre travail, c'est que on a commencé à réussir à boucler le programme à partir du moment où on a réussi à être au point sur la mise en train.
Tu peux préciser ça, parce que cette question de l'articulation de temps ritualisé de recherche de problèmes.
Ouais.
En appui au programme,
vous l'avez... Oui, alors j'explique. Par exemple, l'enseignement de l'algèbre. Tout à l'heure, je l'ai dit, il y a un véritable obstacle épistémologique. C'est quand on a des problèmes en mathématiques et puis que d'un seul coup, ce problème, on le déconnecte complètement, on le modélise. Et puis, alors très souvent, en plus avec des lettres. Hein, et puis, on fait un traitement complètement mathématisé de ce problème. Et puis, ensuite seulement, on revient au sens du problème. C'est quelque chose qui est complètement contre-naturel. L'enseignement d'algèbre, c'est quelque chose de très difficile au collège. Ben, quand on enseigne, par exemple, toute la partie sur les équations et les identités remarquables en troisième, moi je me souviens d'y avoir passé 4 semaines des fois avec mes élèves, et au bout des 4 semaines, j'avais perdu la moitié des élèves, quoi, parce qu'ils en avaient ras-le-bol, en plus ils en avaient marre. Je veux dire, ben là maintenant, quand en plus on est une équipe de profs à fonctionner comme ça, on démarre avec des trouvix depuis la sixième, et les identités remarquables et les résolutions d'équations du second degré en troisième, c'est fait en 4 séances. C'est-à-dire que les gamins, ils sont prêts. Ces 4 séances, et ils ont tous compris la démarche experte. C'est bluffant, hein. Mais c'est vraiment cette idée de réfléchir, non plus en termes de programme, chapitrage, machin, mais c'est réellement réfléchir en termes de quelle est la difficulté, à quoi elle est due cette difficulté, et comment est-ce que je l'aborde très régulièrement. J'y reviens. Voilà. Et des moments, je propose un problème de géométrie, mais en réalité, je suis sur de l'algèbre. Et enfin voilà, c'est ça. Hein.
Alors, ce que tu dis là, on le comprend bien de ton point de vue d'expert des mathématiques. Moi, j'ai envie de poser la question à Tiffaine, du coup, ou à Brigitte, dans le premier degré. Enfin, comment est-ce qu'un enseignant du premier degré, qui n'est pas expert, peut arriver à penser ça, cette articulation entre programme préparé par des problèmes bien en amont, les difficultés qu'il va y avoir dans les programmes. Est-ce que, à travers cette démarche, vous avez eu à réfléchir à ça?
Oui, cette question, elle revient souvent du côté des enseignants du premier degré. Est-ce que je vais arriver à faire mon programme? Est-ce que je vais avoir suffisamment de problèmes pour proposer des problèmes tous les jours à mes élèves? Donc ça, c'est une vraie question. Moi, je suis pas sûre que... Enfin, évidemment, ce dispositif a été très positif, mais je suis incapable de dire quels sont les enseignants qui s'en sont emparés et qui poursuivent ce dispositif encore aujourd'hui. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui le font, mais c'est extrêmement difficile parce que quand on t'écoute parler, Sylvie, t'as une maîtrise, on sent que tu maîtrises bien le domaine des mathématiques, ce qui n'est pas le cas de tous les enseignants. Donc du coup, c'est ça qu'il va falloir... c'est évidemment des expériences comme ça, il faut les reproduire. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que les enseignants acquièrent du geste professionnel et des savoirs mathématiques et du contenu didactique?
Mais moi, je pense qu'on touche là à l'importance de la dimension collective. C'est-à-dire que je veux dire, moi, sur les 4 ans de collège, aujourd'hui, j'ai effectivement des mises en train, j'ai repéré tout ce qui était difficile, délicat, comme notion abordée, etc. Mais on y a bossé pendant 10 ans à 4. Voilà. Et puis on a enrôlé aussi nos collègues parce qu'on l'a expérimenté dans un certain nombre d'établissements, et du coup on a réussi à enrôler les collègues sur tous les niveaux, parce que même sur un an, du coup on arrive, si on fait ça seulement sur un an, je veux dire, on voit des choses, hein, il se développe plein de choses, quoi. Mais je veux dire, si on fait ça sur 4 ans, mais c'est du bonheur, quoi. C'est du bonheur quand on les prépare au brevet. Voilà. Oui, bien sûr. Oui. Oui, oui, mais ça se partage. Mais elles sont, oui. Alors pour le collège, pas pour le primaire, pas pour le premier degré. Pour le collège, oui, on les a. Après, l'idée, c'est aussi que un problème, il est pas intrinsèquement didactique. C'est-à-dire que voilà, c'est aussi comment est-ce qu'on le traite, à quel moment, enfin, tout ça, c'est des choses qui sont aussi extrêmement importantes et qui montrent l'importance de l'accompagnement. Et du coup, j'en arrive un peu à ce que je voulais dire aussi, c'est que quand les animations pédagogiques, par exemple, quand on les a préparées avec Tiffaine, je veux dire, on a vraiment bossé toutes les deux. Et pourquoi, enfin, je veux dire, on aurait pu imaginer que moi j'arrive là, voilà, avec mes connaissances, et puis que, ben voilà, je leur explique la vie, quoi. Et en fait, c'était pas du tout l'objectif. Et l'objectif pensé initialement, c'était même pas faire monter Tiffaine en puissance, en didactique. Je crois que c'était pas comme ça qu'on pensait les choses. C'était plutôt l'idée que une formation, elle s'inscrit aussi dans un contexte, dans une histoire, auprès d'enseignants, mais qui sont aussi des individus. Elle avait aussi une connaissance des approches pédagogiques des enseignants, des histoires des écoles, tout ça. Et elle avait tout ça, Tiffaine. Et ça, c'est de l'or aussi, hein, quand on prépare une animation pédagogique. Donc préparer l'animation pédagogique à deux, c'est elle qui me raconte tout ça, c'est moi qui lui raconte l'histoire des mathématiques et tout ça, et après on est toutes les deux en animation pédagogique, et là on les enrôle aussi, les profs. On les enrôle. Et aujourd'hui encore, on est en train de se dire, moi je parle de la dimension collective et de cette importance-là, on est en train de se dire, là ils sont en train de basculer en REP+, il y a peut-être un espace là où on va pouvoir basculer avec des enseignants, puis peut-être des parents aussi, et puis enfin voilà, hein, on se dit là il faut qu'on ouvre, puis des animateurs, basculer sur, mettons-nous tous en recherche. Parce que c'est en étant tous en recherche, justement, qu'on va pouvoir se la construire, cette batterie de problèmes, mais qu'elle ait du sens, quoi.
On va
répondre. Hein. Alors là, parce que, justement, on a, là où on fait le plus gros travail au collège, c'est avec la SECPA. Hein, donc,
oui, d'ailleurs, j'ai développé les maths aussi en SECPA. Ouais, mais les enseignants de SECPA ne sont pas exclus des conseils pédagogiques, si ? Ils ne sont pas exclus, donc je pense que là... c'est des espaces à récupérer pour faire de la formation au sein d'un enseignement. C'est pas simple, hein. Je vois bien comment ça fonctionne dans mon collège, hein. C'est des espaces qui sont souvent désertés aussi par les enseignants. Mais pourquoi c'est déserté par les enseignants? C'est ça la question, en fait. Je pense qu'il y a vraiment un décalage entre ces formations qui sont théoriques, et on a vu ce matin combien c'était intéressant qu'il y ait des chercheurs, qu'il y ait de la théorisation. Mais qui s'inscrivent, elles, on a bien vu que ça s'inscrit dans une temporalité qui est grande, quoi. 10 ans, c'est énorme. On a le temps de faire, je sais pas combien de générations en 10 ans. Enfin, donc, l'enseignant, il a le temps de se tromper, hein, et de pas avancer. Enfin, donc, du coup, on voit bien, que pour ces gens-là, il les faut, bien sûr. Mais il y a la théorie, et puis il y a théoriser sa pratique. Et c'est à nous de mettre en place des dispositifs qui vont permettre aux enseignants de théoriser sur leur pratique, avec l'aide de ce que font les chercheurs, avec l'aide des formateurs, avec, parce que ces temps, là, vous avez passé, je suis venue qu'aujourd'hui, mais vous avez passé 3 jours, c'est essentiel d'avoir ces moments-là, mais il y a aussi, à un moment donné, comment sur mon terrain je mets ça en place, avec mes collaborateurs, avec mon équipe, avec les enseignants, il va falloir se trouver des temps pour réfléchir à ça, pour transformer nos pratiques, sinon on n'y arrivera pas. Si ça tombe toujours que par le haut, on peut pas y arriver, donc il faut bien s'emparer de ça, en ayant l'idée que chacun peut être chercheur dans son domaine. Mais ça suppose des temps de rencontre, des temps de théorisation, des temps de réflexion, des moments où on va pouvoir se réunir, s'abreuver de ce que les chercheurs ont mis au point. Mais c'est ça qu'il faudra arriver à faire.
Et peut-être... Bah,
Peut-être le sens aussi de la table ronde qu'on a essayé de faire là-dessus, et c'est des choses qu'on essaie de dire depuis 3 jours, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des contextes institutionnels qui sont aidants, qui ne le sont pas. Et ça, chacun sur nos terrains, on sait qu'il y a des contextes institutionnels qui sont aidants, qui ne le sont pas. Maintenant, moi, ce qui me semble, c'est que même dans les contextes les moins aidants, il y a toujours des espaces qui ne sont pas investis, qui souvent ne sont pas investis parce qu'il n'y a pas de coopération intermédiaire. Là, ce qu'on entend derrière ce que vous dites, c'est qu'il y a une coopération entre l'IUN, la conseillère pédagogique, le maître surnuméraire du réseau d'éducation prioritaire, avec des enseignants et les directeurs d'école. À partir du moment où on instaure des espaces de coopération, on peut ouvrir ces espaces-là.
Et peut-être pour revenir sur la SECPA, l'enseignant qui s'occupe des sciences en SECPA était présent sur les deux comités exécutifs. Donc lui, il a dit « Cash, moi je suis partant aussi pour voir ces mises en train ». Donc on est allé faire des mises en train dans sa classe, on les a co-animés tous les deux. Ce jour-là, il y avait aussi, t'étais là aussi, Tiffaine. Du coup, il y a la CPE du collège qui a dit « Attends, mais moi je dégage tout, je me libère, je veux venir aussi ». Il y avait la caméra qui était là aussi. Il y avait aussi, je sais plus, on était presque autant d'adultes que d'élèves sur cette séance-là. Ce qui s'est passé, c'était vraiment magique, quoi. C'était super bien. Et on a fait un problème. Et là, pour le coup, c'était vraiment, c'était même pas la mise en train qui se jouait. C'était réellement un problème ambitieux proposé à des élèves de SECPA. Mais ils ont adhéré, Le problème, il est très simple le problème. Hein. On se donne 10 points placés dans le plan. Combien peut-on tracer de segments pour joindre ces 10 points? Donc des points partout là, comme ça. Et puis combien on peut tracer de segments au total? Ah, c'était ambitieux, hein. Ah, c'était costaud. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'était justement l'approche didactique de ce truc-là. Enfin, parce qu'en plus, après, on a mené une auto-confrontation. Enfin, pas une auto-confrontation, d'ailleurs, une confrontation croisée. C'est-à-dire qu'il y avait une des chercheuses qui nous a confrontés tous les deux, le prof de SECPA et moi, à la vidéo, pour qu'on puisse en reparler. Donc, on a pu observer aussi les élèves à ce moment-là et puis échanger par rapport au moment où moi, j'ai récupéré des situations que lui n'avait pas repérées comme étant des situations didactiquement intéressantes. Voilà, je prends un exemple tout simple, mais j'avais placé les points au tableau, et puis j'avais présenté le problème, et puis il y a un gamin qui dit « Est-ce que les points, on les place comme vous ?» Et là, Mathieu, il n'avait pas repéré que cette question-là, elle était hyper intéressante. C'est-à-dire que sur cette question-là, on a déjà passé plus d'une demi-heure. Est-ce que ça avait une importance? Est-ce que ça allait changer le résultat, la façon dont on place les points? Ben si, simplement ils se superposent les segments, mais il y aura bien la même chose, bien sûr. Voilà, je veux dire, et cette question-là, par exemple, c'est tout bête, hein, mais ils l'avaient pas repéré comme une question qui, d'un point de vue didactique, était hyper intéressante. Voilà.
Juste pour compléter ce problème d'une autre manière, moi j'ai vu Sylvie le faire à une classe de CP en ZEP, en essayant de dire, on prend, je sais plus, 5 élèves. Combien de poignées de main ils peuvent s'échanger? Sachant qu'on ne fait qu'une poignée de main avec chaque personne.
Et là, c'est extraordinaire parce qu'on voit ceux qui ont des procédures géométriques, ceux qui sont déjà dans des procédures algébriques, ceux qui sont dans du schéma, ceux qui sont dans du dessin, ceux qui sont dans de l'arithmétique. Enfin, c'est magique. C'est vraiment magique ce qui se joue.
Pour continuer, moi, ce que je voudrais quand même, vous disiez un petit peu, c'est à un moment donné, donc c'est vous deux qui faites la séance ou Tiffaine qui fait la séance dans la classe avec l'enseignant qui regarde. Mais comment petit à petit ça se désétaille cet accompagnement? C'est-à-dire comment petit à petit, c'est l'enseignant qui reprend ça à sa charge et...
Vaste question. c'est difficile à évaluer, hein, de...
De ce que t'as observé, de comment ça s'est passé, de...
La difficulté, c'est de savoir quelle compréhension ils ont eu de cette observation, de... Est-ce qu'ils vont... S'ils l'ont adopté, pourquoi ils l'ont adopté? S'ils l'ont refusé, pourquoi ils l'ont refusé? C'est ça qui est difficile à évaluer avec eux. Donc... Moi, j'ai pu voir certains s'y étaient intéressés parce qu'ils m'ont demandé par la suite que je leur fournisse des problèmes et puis ils m'en ont reparlé souvent quand je les ai croisés, etc. Mais les désétayer, je sais pas faire ça encore. Mais je pense que c'est pas de la responsabilité d'un formateur. Le désétayage, il va se faire parce qu'on va acquérir l'expérience. Donc on va pouvoir ensuite, une fois qu'on a compris, et en faisant ce va-et-vient entre la pratique et la théorie, et on va pouvoir théoriser sa pratique, on va pouvoir ensuite être à l'aise et pouvoir le faire sans l'aide de quiconque.
Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, l'animation pédagogique qui a suivi, ça a été un moment qui a permis cette théorisation et du coup de...
Oui, mais tu vois, dans le temps, c'est tu as une pratique, tu écoutes une théorisation, ça se fait pas, il n'y a pas qu'un pas entre ça. Tu vois, il va falloir du temps, il va falloir y revenir, il va falloir peut-être revenir sur une animation pédagogique pour comprendre encore ce qui s'est passé. Parce qu'on voit bien, les deux chercheuses, elles disaient que ce matin, elles avaient encore revu des choses, alors que ça fait 10 ans qu'elles le regardent, leur film. Donc, on est bien tous là, quoi. On a tout le temps besoin de temps de revenir. C'est bien parce qu'on aura progressé sur un point, qu'on va pouvoir voir le point suivant et avancer. Donc, le désétayage, j'ai envie de dire, on est, toi, dans un processus permanent de formation. Donc, l'enseignant, il peut le penser aussi, son désétayage. Il y a l'institution, ce que peut proposer l'institution, et ensuite, ce que l'enseignant peut penser. Alors, lui, tout seul, il va aller se noyer dans la littérature. Il peut, du coup, on peut penser au niveau des réunions de cycle entre enseignants ou dans les conseils pédagogiques, ou essayer de se mettre ensemble, de dire, OK, on s'y colle à ce truc, et on voit comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, et avancer, je pense, ensemble sur... sur la prise en main de ce dispositif.
On pourrait dire aussi que si on a le sentiment que les enseignants adhèrent, c'est déjà bien. Parce que s'ils adhèrent, c'est qu'ils vont pratiquer. S'ils pratiquent, ils vont pratiquer régulièrement. Et c'est la régularité, et c'est la régularité dans la durée qui va être intéressante. Donc l'adhésion des enseignants, elle est prioritaire. Donc a priori, il y en a quelques-uns qui ont adhéré.
Mais moi, je pense que ça pose effectivement la question de à quelles conditions on arrive à se former quand on est enseignant à un coût qui reste le coût d'un professionnel. Et ça, alors quand on en a discuté, enfin c'est une question qu'on se pose souvent nous, hein, quand on en a discuté avec Yves Place en préparant la table ronde, il disait que pour lui, c'était vraiment quelque chose qui s'inscrivait dans une temporalité qui était très longue. Et puis qui n'était pas forcément non plus continue. C'est-à-dire qu'actuellement, Tiffaine, elle a laissé tomber un petit peu les mises en train, elle en fait plus tellement, elle a basculé sur autre chose, mais il a bien en tête que d'ici un an, il voudrait bien revenir là-dessus. Voilà, donc demander à Tiffaine de nouveau de repartir là-dessus et peut-être relancer une ou deux animations pédagogiques là-dessus. C'est-à-dire la piqûre de rappel qui permettra de relancer. Parce que lui, il est vraiment dans cette idée, bon, alors que d'abord il y a des enseignants qui changent, mais même pour les enseignants qui sont stabilisés, cette idée qu'il y a aussi une temporalité pour s'approprier un certain nombre de choses qui est extrêmement longue. Voilà. Ouais, parce que moi je crois pas qu'il y ait, enfin, c'est vraiment, alors c'est une vraie question, mais je crois pas qu'il y ait des disciplines qui soient moins intéressantes que les autres, je pense que on peut se passionner pour tout, enfin, de mon point de vue, tout est passionnant, y a pas de souci. Mais par contre, comment la question de l'enrôlement, c'est une vraie question.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que j'interviens aussi beaucoup en français et j'ai beaucoup de rendez-vous littéraires avec sur la lecture, la production d'écrit, puis des rendez-vous littéraires en maternelle. Quel que soit le niveau, quelle que soit la discipline, bien que chacune ait leur spécificité, on est sur les mêmes problématiques, en fait. Donc, on est sur la construction d'un langage en mathématiques, sur le langage écrit, sur le langage oral. Donc, finalement, quand un enseignant va acquérir une certaine expertise ou va réussir à modifier ses pratiques et acquérir une certaine expertise, il va pouvoir les transférer sur d'autres disciplines. Et là, mais ça demande du temps et ça demande de la théorisation. Mais le processus d'apprentissage, il est le même. On met en activité qu'une situation d'apprentissage. De cette situation d'apprentissage, on va tirer des fils en disant, OK, pour réussir ça, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Comment on s'y est pris? À partir du moment-là, on va pouvoir théoriser quelques éléments de la situation. Et ensuite, on dit, OK, ça, c'est ça. Et donc ça, on va l'entrer. Enfin bon, je schématise un peu, ça paraît simple. Mais ça, ce que je viens de décrire, on peut l'appliquer dans toutes les disciplines. Oui, mais je pense que si on acquiert de l'aisance dans une discipline, on va pouvoir aborder l'autre avec plus, enfin, surtout pour le premier degré, puisqu'on est tenu de faire découvrir un maximum de disciplines. Mais donc, on va transférer, je pense.
Il y a une grande chercheuse canadienne en éducation qui s'appelle Marie Bacondrew, qu'on a interviewée il n'y a pas longtemps, et qui dit plutôt que d'essayer de changer les personnes, peut-être qu'il faut essayer d'abord de changer les situations. Et peut-être qu'on verra qu'en changeant les situations, les personnes vont changer. Et je pense que, à travers ce dispositif, c'est un petit peu ça qui s'est passé. C'est-à-dire que, au lieu de créer la situation où c'est stressant et c'est angoissant de se confronter à cette difficulté de faire des problèmes avec les élèves, On essaie de changer la situation et de mettre l'enseignant d'abord en situation d'observer une démarche différente, de voir qu'elle marche. Et du coup, de lui donner envie de...
Donc c'est une bonne pratique, ou alors je...
Alors, est-ce que la bonne pratique que vous avez mis en place, est-ce que c'en est une? Est-ce que c'est transférable tel quel? Je vous laisse la parole. Tiffaine, qu'en penses-tu?
On l'a dit que c'était une expérience spécifique, c'était pas un modèle. Donc du coup, ce qui va être transférable, c'est le fait que... Parce qu'à la fois, on a travaillé sur le contenu mathématique, c'est-à-dire la résolution de problèmes et tous les savoirs qui vont avec, mais à la fois, on a essayé de travailler aussi le changement de personnalité, c'est-à-dire le geste professionnel. Donc on a travaillé sur ces deux axes. Donc je pense, ce qui est intéressant, c'est ce processus-là, qu'on peut qualifier de bonne pratique. C'est le processus dans lequel on s'est mis. C'est pas le fait de faire des maths dans ce quoi que ce truc-là. Bon, ça a été pensé. Ensuite, c'est vrai que ça peut être perverti. On a vu très souvent combien on pouvait s'emparer d'un dispositif et le pervertir et le vider complètement de son sens. Si on reste dans cette dynamique, et là, je pense que c'est là-dessus où on a un peu faibli ou parce que les choses sont enseignées de cette façon, on n'a pas mis tout de suite les enseignants dans une perspective de formation par rapport à ça. On leur a montré un dispositif, ils se sont beaucoup focalisés sur le contenu mathématique, mais moins sur ce que ça allait pouvoir changer dans leur pratique à eux. Et donc là-dessus, je pense qu'il va falloir, s'il y a une animation pédagogique à programmer, c'est celle-là aussi. C'est qu'est-ce que ça a changé, et c'est là-dessus qu'il va falloir réfléchir. Mais dire que... C'est toujours pareil. Votre remarque, elle est pertinente parce que c'est vrai.
Je vais y répondre aussi. Ouais. Hein. Moi, il me semble que la mise en train là-dedans n'est qu'un prétexte. C'est-à-dire que ce qui me semble réellement intéressant, c'est la démarche de formation et l'accompagnement des enseignants. Et comment est-ce que l'institution qui ici est représentée par l'IEN, a soutenu cette démarche-là. Et comment est-ce que finalement il a fait monter en puissance une enseignante surnuméraire qui n'a pas forcément vocation à être formatrice, à devenir à la fois formatrice et accompagnatrice dans une forme de compagnonnage qui est un étayage et qui petit à petit finalement désétaille, puisque tu es aujourd'hui quand même vraiment dans de la co-intervention avec les enseignants, là où au début tu étais plus toi, c'était oui. Toi qui montrais. Donc il y a eu ça. Moi, il me semble que ça, c'est pas le modèle de formation, c'est un modèle de formation qui me semble quelque chose d'important dans ce qu'on disait, l'articulation entre le pilotage, la formation, l'enseignement. Donc il me semble que c'est ça. Après, la mise en train, alors d'abord les conditions de réussite de la mise en train, moi j'en ai 20, j'en ai 90 diapos, hein. C'est-à-dire la même mise en train suivant comment elle est faite, avec la même consigne. Enfin, c'est ce que je disais, hein, une consigne, c'est pas intrinsèquement didactique, une modalité non plus. C'est-à-dire que on peut faire des mathématiques avec des élèves de façon extrêmement pertinente sans jamais pratiquer la moindre mise en train. Je veux dire, c'est pas un souci. Ici, à ce moment-là, ça répondait à une demande par rapport à un diagnostic qui avait été fait, et moi j'avais cette expérience-là et je l'ai apportée, et on a construit ensemble les conditions pour qu'on puisse le développer. Mais on n'est pas du tout sur des bonnes pratiques, enfin il me semble pas. Hein. Alors.
Je peux juste dire deux mots ?
Ouais, vas-y.
Ça, c'est la question typique des GESCO.
Excuse-moi. Allez hop, ça c'est dit.
Mais cette même question, elle est posée à chaque fois que se met en place ce type d'action, formation, recherche, etc. Et moi, je le dis très sincèrement, j'ai eu une présentation faite statistique par une coordinatrice ZEP d'une ZEP de l'Ain qui montre que l'action, formation, recherche qu'ils ont fait autour des albums en maternelle, et etc., a amélioré les résultats des élèves aux évaluations de 6e. Et l'inspectrice IAIPR en charge de l'éducation prioritaire sur l'académie a dit mais c'est merveilleux, c'est fantastique. Et en fait, cette coordinatrice a fait ça avec un ami statisticien, donc il a passé des heures et des heures et des heures pour produire le résultat statistique attendu, c'est-à-dire en prenant les variables qui montrent évaluer quantitativement l'impact d'un dispositif sur la réussite des élèves, c'est une question qui est piégée parce que c'est impossible.
Mais non, la motivation déjà, le goût.
Mais est-ce que ça se mesure?
Ça se mesure, ça se voit.
Alors, quand même, moi je vais dire quelque chose par rapport à ça, et je vais parler du second degré pour le coup. Plusieurs choses. La première chose, c'est ce que je disais, c'est que sur une année scolaire, de toute façon, on enrôle tous les gamins. Ça, c'est une première chose. Et quand on fait pas de mise en train, ils le réclament. Après, une deuxième chose, c'est que forcément, la mise en train, j'ai pas pu vous détailler complètement ce que c'était. J'ai juste parlé d'un cadre didactique. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, la mise en train, elle a une visée développer des savoirs émancipateurs. Hein, clairement, donc, il y a un certain nombre de choses dans la façon dont on la pratique qui vont dans ce sens-là. Voilà. Du coup, ça, dans les classes, ça se ressent. Et parfois, alors c'est peut-être une anecdote que je vais vous raconter là, mais moi, un jour, j'ai une chercheuse qui est venue dans ma classe, qui venait du Brésil, je crois, un truc comme ça. Et elle me dit, mais en fait, avec tes élèves, là, quand tu fais ce genre de choses, tu génères de la violence. Je lui dis, ah bon, pourquoi j'ai génère la violence? Oui, mais parce que quand ils vont dans les cours d'après ou l'année prochaine en cours de maths, ils vont pas s'y retrouver là. Parce que tu leur apprends l'autonomie, tu leur apprends à penser, tu leur apprends la liberté. Et puis l'an prochain, l'enseignement ordinaire, c'est pas ça. C'est pour ça que je pense que, donc oui, il y a de la transformation et oui, les élèves, ils adhèrent. Et surtout, oui, il faut faire collectif autour d'un truc comme ça. Parce que, alors ça n'a jamais généré de violence, bien entendu, elle exagérait en disant ça. Mais il n'empêche que quand on est toute une équipe à faire ça, et là, actuellement, il y a notamment le collège Ampère qui fonctionne comme ça maintenant depuis 6 ou 7 ans. Je veux dire, ils ont des gamins qui spontanément s'inscrivent à tous les concours de mathématiques, qui explosent les résultats au brevet en mathématiques, etc. Quoi, je veux dire, ouais, mais il y a toute une équipe qui fonctionne comme ça depuis 6 ou 7 ans maintenant, quoi. Voilà.
Est-ce que l'effet le plus intéressant, mais, voilà, il est sur les résultats des élèves au brevet, ou est-ce qu'il est sur le développement d'un collectif professionnel dans un collège ou dans une école?
Moi, c'est vraiment ça aussi que j'ai envie de regarder.
Mais est-ce qu'on peut penser les deux séparément? Enfin, c'est ça la question.
Non.
Et on a pu mettre en place, alors Sylvie et Brigitte et Tiffaine vous ont parlé de ce dispositif à Duchère. On peut parler d'autres dispositifs de formation qui sont en place ailleurs. Avec les conditions normales, sans moyens supplémentaires, et qui n'ont jamais renvoyé à l'institution d'évaluation chiffrée, et avec des formateurs qui je pense à un formateur en particulier, qui se permettait de dire aux représentants de l'institution qui réclamaient des chiffres qu'ils n'avaient pas à le faire, éthiquement parlant. Voilà.
Mais même si on revient sur Anne Armand, qui était là le premier jour, je pense que Anne Armand, ses études, elle ne les fait pas avec les résultats de l'ADEP, hein. Je pense que elle va dans les établissements et qu'elle discute avec les gens. Et alors le formateur auquel il pense, moi j'ai travaillé avec lui quand on allait faire des actions formation recherche. On disait au pilote, mais vous venez avec nous dans la classe, mais vous asseyez pas au fond de la classe, hein. Vous remontez les manches là, on est en train d'expérimenter un truc, vous expérimentez avec nous, hein. Et puis voilà, puis derrière on débriefe ensemble, on discute, et je veux dire, il voyait aussi, je veux dire, comment est-ce que son équipe enseignante et son équipe d'ATSEM et les parents d'élèves qui étaient là aussi à ce moment-là, comment est-ce que tout le monde se met à réfléchir sur ce qui s'est joué, sur les enjeux, comment est-ce qu'on s'arrête plus à l'agir mais qu'on bascule dans le comprendre, et comment on bascule même dans une forme de schizophrénie, hein. Je me suis regardée en train de travailler, en train de je suis descendue du vélo pour me regarder pédaler, quoi. Donc à un moment donné on devient fou, mais c'est extraordinaire quand on devient fou tous ensemble comme ça avec les pilotes de l'institution. Et ça, enfin, nous on l'a développé à certains moments sur des actions formation recherche, donc à l'époque où moi j'étais au centre Michel Delay, on l'a fait, et ces pilotes là après ils nous demandaient plus jamais les fameuses fiches là. On partait, ils nous donnaient une fiche là avec le degré de satisfaction et tout ça. On revenait, c'était vierge, hein. Ça c'était clair. Voilà. Par contre, venez avec nous.
L'institution, c'est chacun de nous, et l'institution continue à fonctionner d'une certaine manière. Pardon, moi, tout le monde accepte de fonctionner de cette manière-là. Et moi, je veux dire, il faut quand même dire ce qui est. Il y a une forme de triche dans tout ça. Ce nombre d'évaluations chiffrées qu'on est censé rendre, et vous pourrez en parler pour toutes les actions de la politique de la ville et tout ça, où finalement, de toute façon, tout le monde sait qu'on va mettre les chiffres que l'institution attend qu'on mette. Et puis après, ça donne des choses. Vous voyez les statistiques ethniques des arrestations de la police. et on va dire que bah, telle ethnie, elle est plus arrêtée que les autres. Mais ça mesure quoi? Ça mesure qui la police, à qui la police s'intéresse? Ça mesure pas si telle ou telle ethnie serait plus... on peut leur faire dire n'importe quoi après à ces chiffres. Moi, je pense qu'on a aussi tous à réfléchir d'un point de vue éthique et ce qu'on accepte de rentrer dans ces logiques-là.
L'idée, c'est que oui, ils y parviennent tous. Par contre, c'est la temporalité qu'il faut regarder. C'est-à-dire qu'il y en a, quand on est par exemple sur des trouvix, c'est-à-dire sur des résolutions d'équations à une inconnue, hein, en définitive, il y en a qui parviennent dès le milieu de la sixième, et puis il y en a qui parviennent en fin de cinquième. Mais c'est aussi ce respect de la temporalité des apprentissages qui, moi, me semble fondamental. Enfin, voilà, dans la mise en train, il y a vraiment un certain nombre de conditions. J'ai pas pu toutes vous les développer, mais la dimension temps, par exemple, elle est énorme. Énorme.
Moi, ce que j'ajouterais, c'est que si, par exemple, là, il a fallu 2 ans pour qu'il construise la notion mathématique, il n'empêche qu'il a mis en place des procédures et des opérations intellectuelles qui sont propres au langage mathématique. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est aussi là-dessus qu'il va falloir théoriser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le savoir à construire, il y a tout ce... Et ces opérations intellectuelles-là, on va les retrouver dans les différents langages. Donc c'est... si on arrive à théoriser avec les gamins là-dessus, je pense qu'ils vont faire encore plus de progrès. Enfin, bon.
Comment vous faites pour faire la mise en commun, justement, cette mise en train?
Alors, comme il faut que ce soit en 20 minutes, là encore, il faut que le contrat soit hyper clair avec les gamins. Ça va générer de la frustration. Mais sauf que comme c'est tous les jours, ben finalement, ça fait plus de frustration à la fin. Parce que si aujourd'hui, t'as pas pu exposer ta procédure, ben c'est pas grave, tu exposeras demain. Voilà, c'est pas dramatique. Parce que de toute façon, cette activité-là sur laquelle t'as pas pu exposer ta procédure, il y a une chose dont t'es sûre, c'est qu'il y a un moment donné dans les 3 semaines qui viennent où elle va revenir. Où elle va revenir. Voilà, il y a ça aussi. Hein. C'est cette idée qu'on est aussi sur un truc qui revient, hein. Voilà, justement pour qu'ils aient tous le temps. Donc ça veut dire que régulièrement, on revient sur les mêmes choses et qu'on fait le lien. Voilà, là, ça, ce truc-là, en fait, c'était la même chose que la dernière fois. Il y en a qui l'ont vu, il y en a qui l'ont pas vu. Ceux qui l'ont pas vu et puis qui, à ce moment-là, le repèrent toujours pas, c'est pas grave, c'est la fois d'après, peut-être qu'ils le repéreront. Voilà. C'est ça aussi qui est un peu fort, hein, dans ce truc-là. Ouais.
Au départ, sous les représentations générales, vous avez indiqué qu'il y avait une survalorisation du savoir procédural. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion et quels sont les effets négatifs de cette survalorisation?
Alors, la survalorisation procédurale, ben, c'est par exemple... alors, je vais me situer encore dans le second degré. Résolution d'une équation du premier degré, par exemple. Je passe le nombre de l'autre côté et je change le signe. Voilà. Bon, eh ben très rapidement, c'est vrai que c'est ça ce qu'on fait. Concrètement, c'est ça ce qu'on fait. Je veux dire, mais en attendant, tant qu'on n'a pas compris que en réalité, on ajoutait l'opposé des deux côtés de l'égalité et que c'était quelque chose effectivement qui était une opération équivalente à celle d'au-dessus et que donc ça ne changeait pas les solutions de l'équation. Je veux dire, tant que ça, on l'a pas compris. Ben, quelque part, ça va poser problème d'automatiser cette procédure. Parce qu'il y a un moment donné où ça va nous mettre en défaut, où on va se planter. C'est sûr. Voilà. C'est ça ce que je veux dire quand je dis que le savoir procédural pose problème.
En tant qu'enseignant de sciences, je voulais savoir si au cours de cette mise en train, vous développez la démarche d'investigation qui est commune finalement aux disciplines scientifiques. Et si c'est le cas, ça voudrait donc dire que ça va avoir des effets non seulement sur les apprentissages en mathématiques, mais évidemment des effets sur les disciplines scientifiques, puisque voilà, les sciences physiques, les SVT, la techno pratiquent la démarche, mais peut-être sur d'autres disciplines aussi.
Oui.
Donc avec un impact peut-être plus général sur, en gros, sur les apprentissages des élèves pour un niveau donné.
Alors, là-dessus, il y a bien sûr que, enfin, il y a des mises en train, par exemple, dans le cadre d'une démarche d'investigation, qui sont prévues sur une semaine, par exemple, ou pendant une semaine, on travaille dessus et on va partir un petit peu dans tous les sens. Il y a aussi des moments où, à partir d'un problème, les gamins vont en trouver plein d'autres et donc on va, ça va être les prochaines mises en train. Enfin voilà, il se passe tout un tas de choses. De cet ordre-là, effectivement, qui sont très proches, enfin voilà, de la démarche d'investigation. Il y a aussi des moments où la mise en train, elle est faite en maths physique, par exemple, et puis où du coup, elle est commencée en maths, et puis le prof de physique il s'en empare après, puis on revient dessus en maths, puis ou même c'est les élèves, hein, qui font le transfert de qu'est-ce qui s'est dit dans le cours de physique, comment vous avez avancé. Enfin, voilà, il y a aussi des choses comme ça qu'on a pratiqué, expérimenté avec des collègues qui voulaient jouer le jeu, quoi.
Je voudrais peut-être juste pour qu'on conclue aussi, qu'on revienne sur la démarche de formation. Alors, peut-être là du côté de Brigitte ou Tiffaine, sur ce type de démarche qui a été pensée sur un objet en mathématiques, est-ce que du coup, ça a impacté peut-être une manière aussi de concevoir d'autres formations sur d'autres champs ?
Oui, alors moi, c'est ce que j'ai fait en lecture, hein, puisque j'ai fait des animations pédagogiques sur la lecture, et en particulier sur la lecture au cycle 1. Et donc je procède de la même façon, c'est-à-dire je vais dans les classes, je fais des projets soit à la période, soit au trimestre, soit à l'année. Et donc il y a un va-et-vient entre ce qu'elles ont vu en animation pédagogique et ce que je fais concrètement dans les classes. Donc à chaque fois, ça réduit la distance entre la théorie et la pratique. Et donc ça ouvre des espaces de réflexion et d'interrogation et de réinterrogation. Donc il y a des collègues avec qui je fais, par exemple il y a une collègue avec qui je suis intervenue depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis que j'occupe ce poste. C'est vrai que la première année, ce qu'on a fait c'était pas très intéressant. On s'est dit bon, on va refaire les choses différemment. J'ai mené une deuxième action avec elle. Donc là, elle était partie prenante dans cette action. Ensuite, il y a eu la formation que j'ai proposée auquel elle a participé. Et cette année, on a vraiment monté en puissance toutes les deux par rapport à la problématique de la lecture en cycle 1. Donc voilà, je pense que c'est vrai que c'est, c'est ce dont parle Monsieur Place, la recherche,
action.
La formation, enfin, action.
Formation.
C'est vraiment d'être dans une formation de proximité, c'est-à-dire permettre à l'enseignant à la fois de bénéficier de théorie et en même temps de pouvoir les mettre en pratique et de voir une autre personne les mettre en pratique pour avoir cet échange et avancer. Sinon, les pratiques, elles ne pourront pas se transformer que si ça arrive que par des instructions qui arrivent d'en haut.
Oui, du point de vue de la circonscription, là, cette année, on n'a pas renouvelé le projet, mais le secteur de la Duchère va passer en REP+, on aura du temps qui nous sera donné. Et M. Place a effectivement pensé qu'on pourrait continuer sur cette démarche-là. Autrement, au niveau du plan d'animation, rien ne s'est fait. On a cette année investi magistère, donc on est sur d'autres problématiques.